Attention, vous êtes arrivés dans les monts de demain. Une chronique du parc naturel régional pour parler d'urgence écologique et climatique, mais aussi, surtout, de transition. Pour imaginer ensemble les monts de demain.
Malgré un gaspillage alimentaire qui ne cesse d'augmenter, l'accès à une alimentation suffisante, saine et équilibrée est un combat quotidien pour de plus en plus de personnes en France. Entre dépendance à l'aide alimentaire, privation et sentiment de honte, se dessinent les contours d'un phénomène trop peu nommé, les violences alimentaires. Bénédicte Bonzi est anthropologue et chercheuse spécialiste des injustices alimentaires. Elle milite pour une sécurité sociale de l'alimentation. Le 3 octobre dernier, à l'occasion du forum annuel de l'alimentation organisé par le Conseil local de l'alimentation, l'assiette et le territoire, elle était l'invitée des Monts de demain pour une conférence « L'alimentation, un droit pour tous ». Donc Bénédicte Bonzi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue spécialiste des injustices alimentaires. Vous avez œuvré au sein des Restos du Cœur pour faire vos recherches, si j'ai bien tout suivi. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez par droit à l'alimentation ?
Le droit à l'alimentation, il est défini au niveau international, il est notamment défini par Jean Ziegler au départ, et ça va être cette question d'un accès digne à une alimentation choisie en quantité suffisante qui permet aux personnes d'être en bonne santé et aussi d'avoir une liberté psychique parce qu'on n'est pas dans cette insécurité alimentaire. Donc le droit à l'alimentation, c'est vraiment plus que remplir l'estomac, c'est s'épanouir parce qu'on mange.
Alors vous avez dit d'ailleurs la précarité alimentaire, c'est pas quelque chose de normal. Alors pourquoi est-il urgent de parler aujourd'hui de précarité alimentaire en France et pas seulement dans d'autres pays ?
En fait, c'est un très très mauvais signal d'avoir à en parler en France. C'est-à-dire qu'on est dans un pays riche, on produit de l'alimentation, elle circule en quantité suffisante et on voit qu'il y a des mécanismes de confiscation qui font que des personnes recourent aujourd'hui à de l'aide alimentaire quand l'application du droit à l'alimentation et le respect de ce droit au niveau national devraient juste leur permettre d'accéder aux mêmes choses que tout le monde. Donc c'est urgent d'en parler pour montrer en fait les dysfonctionnements de ce système, que ce n'est pas une fatalité et qu'on a des moyens collectivement pour faire autrement.
Alors vous avez parlé d'ailleurs souvent de violence dans votre conférence. Vos recherches portent sur les injustices alimentaires. Quelles formes concrètes prennent-elles dans notre société ?
Il y en a plusieurs. Il y a le fait, par exemple, de construire le système alimentaire sur le... Alors, c'est pas tous les approvisionnements, mais c'est quand même une partie importante sur le gaspillage alimentaire. Et du coup, cette fameuse loi de lutte contre le gaspillage alimentaire qui est mise en place en 2016, elle va transformer aussi l'approvisionnement de l'aide alimentaire. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait déjà des ramasses. Et puis, ce qui va se passer à partir de 2016, c'est que les magasins ont le droit de vendre à perte, donc ils vont en vendre à 50%. Des acteurs économiques, en fait, vont être créés, des startups type Phoenix qui vont aussi récupérer tout un tas d'invendus. Et donc, les structures de l'aide alimentaire vont se retrouver davantage avec des invendables que des invendus. Et malgré tout, le supermarché, lui, il est super gagnant parce qu'hier, il devait payer une taxe pour détruire l'alimentation qu'il devait jeter. Et là, par rapport à la mise en œuvre de conventions de dons, les structures de l'aide alimentaire viennent chercher les denrées. Et du coup, eux, ils défiscalisent l'ensemble de ces denrées. Donc du coup, on est vraiment dans une posture gagnant-gagnant pour l'agro-industrie. Et au niveau de l'aide alimentaire, il y a beaucoup de pertes. Et puis pendant des années, on va avoir un espèce de tabou. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que ce qui est donné ne convient pas parce qu'on a peur qu'on ne nous donne plus, parce qu'on a été mis en concurrence avec d'autres acteurs. Et donc là, on voit en fait la violence de ce système où du coup, le tabou, il est essentiel parce qu'on est tellement vulnérable, on a tellement besoin de ces denrées que même si on donne des trucs que les bénévoles doivent apprêtrier pendant des heures, accroupis, etc., eh bien, on le prend. On se tait et on y va encore. Donc le rôle du chercheur dans tout ça, c'est de dire oui, ok, vous faites ça les bénévoles, mais nous on va un peu monter au créneau parce qu'en point de vue éthique, en fait, c'est absolument pas admissible que des gens qui font des profits chaque année s'enrichissent en créant un marché immoral de la faim, en fait. C'est de ça dont on parle.
Vous parliez aussi de dignité pour les personnes qui demandent cette aide alimentaire. Il y a quelque chose d'un peu dérangeant. Est-ce que je peux manger ce produit qui finalement arrive en fin de date de consommation ?
Et quand on se pose cette question et qu'au final on est obligé de le manger, il faut vraiment comprendre que, et puis on le ressent tous, hein, ce que l'on mange, ça nous constitue, c'est notre corporité. Et du coup, quand on mange quelque chose dont on n'est pas sûr ou dont on est sûr que d'autres ne voulaient pas, eh bien, on va se sentir comme ça. Et du coup, c'est ça aussi, cette perte de dignité. Elle est liée au message qui est délivré quand finalement, mois après mois, j'ai toujours dans mon panier des produits dont la date est dépassée. Et puis, les études le montrent, les vitamines dont on a besoin dans notre alimentation, elles sont plus présentes. Donc, ça rend pas malade d'un point de vue où ça va pas être flagrant. Et encore, il y a quand même des personnes qui recourent à l'aide alimentaire qui alertent un peu sur les effets de cette consommation pendant plusieurs mois. On n'a pas tous les mêmes fragilités ou pas au niveau de l'estomac. Donc, il faut là aussi en prendre la mesure et se donner les moyens de transformer ça. C'est pas les bénévoles de l'aide alimentaire qui en sont responsables. Eux, ils en sont témoins. Il faut vraiment les soutenir et les aider à atteindre leur premier objectif, qui est de lutter contre la pauvreté. Les bénévoles sont vraiment utilisés à d'autres fins que les leurs. Et ça aussi, ça me paraît important de le souligner. C'est-à-dire que quand on s'engage pour être bénévole, c'est vraiment qu'on veut tout faire pour que tout le monde mange à sa faim, etc. Donc on ne veut pas jeter. Et de penser le quotidien de ces personnes avec des produits de ramasse achetés, avec l'impossibilité des fois d'accueillir tout le monde, parce que c'est le bénévole hein, qui est en première ligne à devoir dire bah, « Là, tu as voulu t'inscrire, mais je vais juste te donner un colis de dépannage parce qu'on n'a plus assez de place. Bah, » En fait, tout ça, c'est affreux. Mmh. C'est-à-dire que celui qui s'engage pour dire « Oui, on va... » finalement lui imposer de dire non. Et la mission, en fait, de l'aide alimentaire, elle revient à l'État. Elle est déléguée aux structures de l'aide alimentaire. Et quand je dis que c'est une mission impossible, c'est parce qu'on ne donne pas les moyens aux acteurs à qui on dédie cette mission d'État de pouvoir y répondre correctement. Donc on les met vraiment en difficulté.
Donc c'est l'un des freins, c'est les moyens que donne l'État aux bénévoles.
C'est un choix. Du coup, c'est un choix de pacifier, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qu'il faudrait faire, mais on fait suffisamment pour que le bourgeois dorme tranquille. C'est un peu caricatural, mais c'est quand même ce qui se passe. Et du coup, c'est ça aussi dont il faut prendre conscience, c'est qu'on peut exiger mieux et qu'on doit exiger mieux. Et il ne faut pas s'habituer à cette anormalité. Aujourd'hui, on fait trop comme si c'était normal. On ne peut pas s'habituer à ces horreurs-là. On ne peut pas s'habituer au fait que chaque année, il y ait de plus en plus de femmes, d'enfants, de foyers qui recourent à l'aide alimentaire comme seule perspective. Et donc, c'est aussi... C'est Boris Cyrulnik qui en parle très bien. Il faut vraiment qu'on puisse rétablir un peu de bonne santé mentale et morale en admettant que, en fait, tout ça, c'est pas normal. Dans un pays riche, on ne doit pas vivre de telles situations.
La conférence parlait aussi de sécurité sociale de l'alimentation. C'est quoi la sécurité sociale de l'alimentation ?
C'est une belle ligne de fuite qui nous permet de nous ancrer dans une histoire puissante qui est l'histoire de la sociale, qui est que Nicolas Da Silva traduit très bien dans la bataille de la Sécu. C'est-à-dire que avant 1945, on a eu tout un tas de corporations qui se sont réunies via les syndicats pour se créer des mesures de protection pour arriver que celui qui tombe malade puisse quand même un peu se soigner. Donc avoir ces dynamiques-là. Et puis petit à petit, ça a permis la création de caisses. Et puis petit à petit, après 1945, ça a permis en fait de créer la sociale, d'avoir un système de protection sociale où on se prémunit collectivement des risques grâce à nos cotisations, donc à notre force de travail, tout en ayant l'autogestion des caisses. Et ça, c'était vraiment l'outil puissant, c'était de garder la maîtrise en fait de l'argent. C'est les périodes pendant lesquelles on va pouvoir faire le plus. Il y a des investissements colossaux au niveau des CHU, etc. On transforme en fait les mouroirs en objets de soins. On transforme le bénévolat des religieuses en métier. Et en fait, tout ça, c'est hyper important dans la considération qu'on a de notre société, dans ce projet de société qu'on va défendre. Et en effet, on constate que c'est un projet de société communiste et que c'est pas un projet de société en fait qui va utiliser, faire du marché et des profits à travers le soin, à travers le social, à travers le marché de la faim.
Alors, si j'ai bien compris, à l'heure actuelle, c'est à l'état d'expérimentation. Déjà, est-ce que vous pouvez expliquer peut-être en quoi il différerait de l'aide actuelle ?
Bah, du coup, là, ça diffère complètement parce qu'on a l'universalité. C'est-à-dire que la sécurité sociale de l'alimentation n'est pas une politique pour les pauvres. On arrête d'avoir des pauvres politiques pour et de distinguer les personnes comme ça. On a une politique globale qui donne accès à tout le monde. Et donc, via la cotisation, à remplir une assiette qu'on va se répartir. Et donc, c'est un principe de solidarité qui paraît normal. Et du coup, c'est vraiment s'adosser à ça, en disant, bah voilà, selon nos revenus, on va être ponctionné de temps. Et ça, c'est OK, parce que ça permet d'avoir un système alimentaire robuste et résilient, ce qu'on n'a pas aujourd'hui.
Vous rappeliez que ce qui nourrit la planète, ce n'est pas l'agroalimentaire, mais l'agriculture. Alors au niveau local, ici, comme ici en Ardèche, quelles pistes d'action les collectivités, les associations ou les citoyens peuvent-ils mettre en place pour avancer vers ce droit de l'alimentation ? Vous avez dit plusieurs fois, rejoignez les expérimentations avec vos compétences. C'est ce que j'en ai retiré en tout cas de votre discours.
Oui, parce que en fait, c'est un peu comme au moment de 45, on ne part pas de rien. C'est-à-dire que d'une part, on part avec déjà la sécurité sociale, même si elle est malmenée, elle est enviée partout à l'étranger, donc c'est quand même quelque chose de puissant. Il faut l'avoir en tête. Et on part avec plein de formes d'expérimentation. C'est-à-dire qu'un supermarché coopératif, une AMAP, un marché avec une tarification différenciée, tout ça, en fait, sont déjà des initiatives qui préfigurent un travail autour de la perspective de sécurité sociale de l'alimentation. Donc, en fait, on a un terreau très fertile. Et du coup, il s'agit juste de se rencontrer et de partager des fois ses craintes de ne pas arriver à transformer les situations pour prendre la mesure, en fait, de la puissance collective et de ce qu'on peut arriver à transformer ensemble. C'est vraiment ça, le message à garder, c'est qu'on a... Dans les territoires, plein de petites pépites, mais qui s'épuisent. Et du coup, cette alerte aussi de « je m'épuise alors que je fais quelque chose de juste », c'est « ok, alors de qui on a besoin pour le faire ensemble ?» Et c'est pas d'arrêter, et c'est en fait, c'est trouver cette autre dynamique. Et finalement, d'avoir cette autre proposition, parce que ça part de quelque chose de très quotidien, manger, eh bien ça rend aussi... possible d'avoir une discussion commune, même avec des acteurs très différents. Et du coup, c'est chouette de voir les acteurs du social, de l'agriculture paysanne, de la culture, s'associer dans ces projets-là.
Aujourd'hui, quels sont les freins, finalement, à cette sécurité sociale de l'alimentation ?
C'est les mêmes freins qu'on a sur toute la casse du service public. Hein. C'est les choix de soutenir un système capitaliste, même s'il nous conduit droit dans le mur. Donc on sait vraiment à quoi on a à faire face. Mais du coup, il faudra être prêt et il faut s'intéresser aussi à politiquement comment on porte et comment on va peser dans la balance des échéances futures.
C'était votre chronique, Les Monts de Demain.
Dans le prochain numéro des Monts de Demain, Simon Parcot nous emmènera philosopher avec les bergers. Nous avons eu le plaisir de le rencontrer le 12 octobre dernier à la Castagnade de Saint-Pierreville lors d'une rando philo. Quelle est la place du pastoralisme dans notre culture ? En quoi ce mode d'élevage a-t-il influencé notre manière de penser et de percevoir le monde ? Quel impact a-t-il eu sur nos relations sociales et politiques ? Autant de questions que nous aurons l'occasion d'explorer sous un angle philosophique.